Virginie Langeroc.
Un séisme de magnitude 8,8 est intervenu cette nuit dans l'est de la Russie, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. C'est le plus puissant dans la région depuis 1952. Le séisme a déjà provoqué un tsunami dans le nord de l'archipel russe voisin des Kouriles et une partie des 2000 habitants ont été évacués. Des alertes tsunami ont été déclenchées dans presque tous les pays riverains du Pacifique. On attend des vagues qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres au Japon, mais aussi en Chine et dans l'archipel américain de Hawaï, tout comme au Pérou. La fin de la conférence sur la question palestinienne au siège des Nations Unies à New York, elle visait à remettre la solution à deux États sur la table. Et moins d'une semaine après l'annonce d'Emmanuel Macron, le Royaume-Uni s'est dit prêt à son tour à reconnaître l'État de Palestine, sauf si Israël prend d'ici là des engagements concrets comme un cessez-le-feu à Gaza. À Londres, les explications de Catherine Illich.
C'est un tournant majeur dans la politique étrangère britannique. Il y a encore quelques jours, Keir Starmer refusait de franchir le pas de la reconnaissance d'un État palestinien. Mais face à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et sous la pression de nombreux élus de son propre camp, le Premier ministre change d'approche. Les images d'enfants sous-alimentés ont bouleversé une partie de l'opinion publique, poussant le dirigeant travailliste à réagir plus fermement. Désormais, Londres se dit prêt à reconnaître la Palestine dès septembre, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, à moins qu'Israël ne prenne d'ici là des mesures concrètes, un cessez-le-feu durable, le rejet de toute annexion de la Cisjordanie et un engagement clair en faveur d'une solution à deux États. Mais pour de nombreux analystes, il est peu probable que le gouvernement de Benjamin Netanyahou accède à ces demandes, ce qui rend quasi certain une reconnaissance britannique de la Palestine aux côtés de la France dès la rentrée. Catherine Illich, RTS, Londres.
Karine Keller-Sutter se dit relativement optimiste alors que la Suisse attend toujours la décision du gouvernement américain sur les droits de douane sur les importations helvétiques. La présidente de la Confédération rappelle qu'en règle générale, la décision finale n'est jamais complètement définitive dans ce type de dossier et qu'on peut toujours continuer à négocier. La Suisse est menacée par des droits de douane américains de 31% à partir du 1er août. Actuellement, un droit de douane général de 10% est en vigueur. Le fondateur du Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab, est dans la tourmente depuis le mois d'avril. Remarques déplacées à certaines collaboratrices, notes de frais questionnables. Il avait démissionné de son poste de président au mois d'avril. Les révélations dans la presse continuent de se succéder jusqu'au Wall Street Journal. L'affaire fragilise l'homme, mais aussi le pays, car ce forum a son importance pour la Suisse diplomatique et économique, Phileas Autier.
Le Forum économique de Davos est un atout pour la Suisse, c'est ce qu'affirme le département fédéral des affaires étrangères. Un atout sur le plan économique mais aussi diplomatique. Selon la Confédération, une perte d'influence de ce forum pourrait avoir un impact négatif sur la visibilité internationale de la Suisse. Parce que pendant quelques jours, chaque mois de janvier, le World Economic Forum rassemble 2500 dirigeants d'entreprises et chefs d'État dans les Alpes grisonnes, mettant ainsi provisoirement la Suisse au centre du monde. Un rayonnement positif pour la Confédération qui soutient d'ailleurs le forum en contribuant à ses dépenses de sécurité. Or, les scandales qui entourent le fondateur de l'événement pourraient miner la crédibilité du forum à l'international. Le Wall Street Journal, un des principaux titres de presse américains, a publié un article sur l'affaire il y a une semaine. Mais malgré les risques pour le forum de Davos, pas question pour la Confédération de voler à son secours. Elle nous assure être en dialogue régulier avec l'événement, mais souligne que l'organisation est indépendante. Les pouvoirs publics ne veulent donc pas intervenir.
Plus de la moitié des sols en Europe et sur le pourtour méditerranéen sont affectés par la sécheresse. L'Europe de l'Est est la plus touchée. Au Kosovo, en Serbie et en Bulgarie, près de 100% des sols sont affectés par la sécheresse cet été et plus d'un tiers sont en alerte, selon les dernières données de l'Observatoire européen de la sécheresse. En Europe de l'Ouest, la situation est plus contrastée. La Turquie, elle traverse une vague de chaleur historique marquée par des relevés au-dessus des 40 degrés sur une majeure partie du pays. Cette chaleur est propice aux feux de forêt qui sont parfois meurtriers. 10 secouristes ont ainsi péri la semaine dernière. Dans ce contexte très tendu, les propos d'un ministre ont provoqué une polémique à Ankara, Anne Andloer.
Ce sont des mots qui sonnent comme un aveu d'impuissance. İbrahim Yumaklı, ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, a reconnu qu'avec l'intensité des incendies, la capacité de l'État à réagir rapidement était parfois, je cite, « limitée ». Mais c'est surtout cette phrase qui a mis le feu aux poudres.
Nous n'avons pas d'avions ou de camions-citernes dans nos poches. Le temps de les déployer d'un feu à un autre, surtout s'il y a du vent, il faut parfois plusieurs jours pour contrôler l'incendie.
Ces propos ravivent une critique récurrente de l'opposition, notamment depuis les incendies ravageurs de l'été 2021. À l'époque, la Turquie n'avait aucun avion. Cette année, selon le président Erdogan, ils sont 27, mais pas assez visiblement. L'opposition place la polémique sur le terrain politique. Özgür Özel, chef du principal parti d'opposition, le CHP.
Dans ce pays, les forêts ne sont pas en sécurité. Les pompiers ne sont pas en sécurité. Dans le régime créé par ce pouvoir, personne n'est en sécurité.
Et la polémique n'est pas près de s'éteindre. Le mois d'août en Turquie s'annonce encore plus chaud que juillet, qui a déjà battu des records de chaleur. Anandler, RTS Ankara.
Et du sport maintenant, le sport suisse est en deuil. Jean-Pierre Egger, qui aurait eu 82 ans aujourd'hui, est décédé ce lundi. Nous l'avons appris hier de sa famille. Multiple champion de Suisse du lancer de poids et du disque, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Montréal et de Moscou en 1976 et 1980. Le Neuchâtelois s'est ensuite affirmé comme l'un des entraîneurs les plus reconnus au monde dans sa discipline, mais aussi dans le basket, le football avec Sion, Grasshopper et Marseille, la voile ou le saut à ski. Aujourd'hui, le ciel reste nuageux, surtout le long du Jura et des Préalpes. Il y aura plus de soleil sur le plateau, comme sur le Léman et en Valais. Des averses isolées restent possibles cet après-midi. Il ne fait pas plus de 23 degrés. Passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis plus de 30 ans, le pianiste Brad Meldo tisse de fascinantes histoires musicales où se croisent Bill Evans, Forêt, Bach ou les Beatles. Entouré de Félix Moser-Holm à la contrebasse et Jorge Rossi à la batterie, il sera en concert ce vendredi 1er août au Festival de Verbier, un concert que je me réjouis de partager avec vous dès 19h30 dans l'été des festivals sur RTS Espace 2 et RTS Play.
Musique Matin, Sidney Fierro.
Il est 8h08 à l'écoute d'RTS Espace 2. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission. Il nous reste encore une heure à passer ensemble jusqu'à la petite compagnie avec Juliette Granier. Une nouveauté du disque dans quelques instants qui nous amènera en Afrique du Sud avec le Zignum Quartet. Je vous en parlerai plus en détail dans quelques instants. Et puis des places à vous distribuer ce matin pour un concert de la violoniste Patricia Kopaczynskaya et la Camerata de Berne. Un concert qui aura lieu dans le cadre du Gstaad Menuhin Festival. Ça sera vers 8h30.
Thank you.
Et c'est une improvisation de Paul Lay, pianiste de jazz, sur l'ode à la joie, l'hymne à la joie de la symphonie numéro 9 de Beethoven. Il y avait même une autre citation, de la célèbre 5e symphonie, également de Paul Lay. Je ne sais pas si vous avez entendu, votre oreille a sûrement dû être captée par cette petite citation rigolote à la fin. Paul Lay, donc ce jeune pianiste français qui parcourt toutes les scènes à l'international, de jazz, voilà, c'est un artiste à suivre. 8h15 à l'écoute d'RTS Espace 2, c'est le moment, la nouveauté du disque, et je vous parle ce matin. Eh bien, j'ai sélectionné un album qui est assez rare, assez saisissant aussi, qui est paru le 18 juillet dernier chez ICM New Series, sous la direction artistique de ce label prestigieux fondé par Manfred Eicher, qui s'intitule donc A Dark Flaring Works for String Quartet from South Africa. A dark flaring. Alors, j'ai cherché comment on pourrait traduire correctement a dark flaring. Flaring, ça signifie une flambée, un embrasement soudain. C'est un peu une sorte de lueur très vive, très éphémère, un peu comme un éclat lumineux. Et donc là, on a a dark flaring, une lumière peut-être sombre, un embrasement sombre. Est-ce que c'est une référence peut-être à la situation de l'apartheid dans laquelle l'Afrique du Sud a été plongée pendant longtemps? Je ne sais pas, en tout cas, ce sont des œuvres qui nous viennent de compositeurs sud-africains du 20e et 21e siècle, qui sont encore trop peu connus peut-être et trop peu entendus sur les scènes européennes, pourtant d'une grande richesse musicale. Alors, au cœur de cet enregistrement, on retrouve les musiciens du Signum Quartet, ce quatuor allemand formé à Cologne dans les années 2000. Il est composé de Florian Danderer, qui est au violon, Annette Walter au violon également, Xandi van Dijk, peut-être qu'on dit Xandi, je ne sais pas, Xandi van Dijk est à l'alto, et puis Thomas Schmitz au violoncelle. Donc ils sont ensemble depuis très longtemps, ils sont connus pour une grande exigence musicale, une curiosité artistique qui les amène justement à explorer de nouveaux répertoires, un sens du son collectif aussi, il y a pas mal d'équilibre, de précision, de poésie, d'engagement aussi. Et ils ont un répertoire qui va à la fois de Haydn au compositeur beaucoup plus contemporain. Et donc dans cet album, on peut entendre ces compositeurs dont je vous parlerai dans quelques instants, mais je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de l'album. On va écouter un extrait des Five Elegies for String Quartet, composé par Arnold van Wyk, compositeur qui est né en 1916, décédé en 1983, qui a souvent exprimé un langage de deuil, d'introspection, marqué par un petit classicisme assez élégant, assez subtil. Et donc ces 5 élégies composées entre 55 et 67, presque 100 mots, et pourtant, eh bien, vous allez entendre, c'est une musique très forte. Thank you. Et voilà, c'était l'Allegro Feroce des Five Elegies for String Quartets de Arnold van Wyk, compositeur sud-africain, donc, avec le quartet Zignum, Annette Walter, Florian Donderer, Thomas Schmitz et Xandi van Dyk. C'est un extrait de cet album paru chez ICM Records tout récemment qui s'appelle A Dark Flaring Works for String Quartet from South Africa. Alors il y a ici, ce n'est qu'un des visages de ce disque, hein. Il y a d'autres compositeurs que vous pourrez découvrir dans cet album aux univers très différents, notamment Mokale Kwapeng avec une pièce qui s'appelle Komeng qui vient puiser dans les traditions rituelles Xhosa. Il y a également donc Mathis van Dyk, Robert Falkens, Peter Louise van Dyk. Mais c'est une autre compositrice que nous allons écouter à présent. Elle est née à Durban en 1903. Elle s'appelle Priolx Régnier. Elle est surnommée Ivy par ses proches. Elle a été formée à Londres et est l'une des premières femmes à s'imposer dans la musique contemporaine britannique du XXe siècle. Elle était admirée par Britten de Partipet notamment. Et nous allons écouter un extrait de son quatuor à cordes en ut majeur, écrit dans les années 30, révisé plus tard. C'est une œuvre très puissante dont je vous propose d'écouter l'Allegro Molto Serioso. Et c'était donc l'Allegro molto serioso du quatuor à cordes en ut majeur de la compositrice Priox Ivy Rainer avec le Signum Quartet, Annette Walter au violon, Florian Donderer au violon, Thomas Schmitz au violoncelle et Shandy Van Dyck. Pour cet album, A Dark Flaring Works for String Quartet from South Africa, paru au label ICM Records, que j'avais envie de vous présenter ce matin. Il est 8h27. Merci d'être à l'écoute de nos ondes sur RTS Espace 2. Dans quelques instants, j'aurai des places à vous distribuer pour le festival Menuhin de Gstaad.
Fühlest wieder Busch und Tal, spiel mit Nebelglanz. Löses endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefühl, linden deinen Blick, wie des Freundes Auge. Fühlt mein Herz froh und trüber Zeit, wandelt zwischen Freud und Schmerz in der Einsamkeit. Fließe, fließe, liebe Fluss, nimmer werd ich froh, so verrauschtes Herz und
ce moelleux, cette voix reconnaissable entre toutes, c'était Matthias Görn que nous entendions accompagné par Andreas Hefliger au piano dans ce lead de Franz Schubert. Il s'agissait de Andenmond sur la poésie du grand Goethe. Il est 8h30 à l'écoute d'RTS Espace 2. C'est le moment de vous distribuer les places dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il s'agit de places pour un concert qui aura lieu vendredi 8 août prochain, dans le cadre du Gstaad Menuhin Festival, un concert avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya, et qui sera accompagnée au violoncelle par Thomas Kaufmann, la Camerata de Berne, et des photographies de Marco Borgreve. En effet, ce concert s'inscrit dans la thématique du festival, qui cette année est changement, humilité, transformation, migration, et qui a à cœur aussi de penser et de réfléchir autour des questions de l'écologie. Et donc, ce photographe, Marco Borgreve, photographe fétiche des artistes classiques, a proposé de dialoguer avec les racines sonores convoquées par Patricia Kopaczynskaya. donc pour cette seconde affiche de Music for the Planet. Elle dit donc les racines de notre programme regardent à la fois sous terre et vers le ciel, explique-t-elle de ce concert. Mais elles naissent surtout dans nos cœurs. Le compositeur polonais Andrzej Panufi croyait fermement que les arbres et leurs racines étaient dotés de pouvoirs magiques. Il les aimait depuis l'enfance, il appréciait leurs différentes formes et couleurs, leurs branches dansant au vent, les sanglots, les soupirs, les bruissements des feuilles, et il imaginait que les racines pouvaient pousser vers le cosmos et leurs branches vers la Terre. Et donc de ces pensées sont nées des courtes pièces fascinantes pour orchestre à cordes que nous combinons ici avec des photographies. Il y aura notamment la sonate pour violoncelle de Schnittke, le concerto Lirenet de Telemann, ainsi que des courtes fantaisies sur la nature d'autres compositeurs. Voilà donc un extrait du programme que vous pourrez entendre vendredi 8 août, des places donc pour ce concert qui aura lieu à 19h30 à l'église de Zannen. Si vous voulez y assister, précipitez-vous sur votre clavier et écrivez sans tarder à musicmatin@rts.ch. musicmatin@rts.ch. Premiers arrivés sont les premiers servis. Pensez bien à noter à l'adresse de notre collègue votre nom, prénom et votre adresse afin qu'elle puisse vous contacter pour vous distribuer ces places. Et c'était Patricia Kopaczynskaya, accompagnée par Sol Gabetta dans cette musique de Jean-Marie Leclerc, une sonate pour violon et basse continue en ut majeur avec ce tambourin, cette musique dansante, et on les entendait rire toutes les deux. Je le rappelle, donc Patricia Kopaczynskaya, que vous pourrez entendre le 8 août prochain dans le cadre du Gstaad Menuhin Festival. Thank you. Et c'était Matutsina que nous entendions avec l'ensemble Lucidarium qui propose dans cet album qui s'appelle Hombres de Maïs, l'âme italienne dans la musique mexicaine, eh bien, d'explorer les musiques savantes, populaires de la Méditerranée et de l'Amérique latine, souvent à travers l'histoire assez méconnue en fait, et marginalisée des migrations, des traditions orales. C'est donc un bel hommage au métissage typique de ces cultures sud-américaines et méditerranéennes.
Thank you.
place au Rouet de France. Nous entendions ici la musique de Jean-Philippe Rameau avec cette magnifique chaconne extraite des Indes Galantes. Cet opéra de Rameau, donc les musiciens du Louvre, Marc Minkowski à la tête de cet emblématique orchestre de la musique baroque française, notamment, pas que, mais ils se sont largement illustrés dans ce genre-là. En tout cas, pour cette musique, eh bien, ça vient clôturer la scène des sauvages qui a été inspirée à Rameau par un spectacle auquel il avait assisté en 1725 avec des Amérindiens de Louisiane. Donc il voit des Indiens, paf, il se dit, mais voilà, je vais intégrer ça dans les Indes galantes. Et puis, cet opéra met en intrigue une amoureuse. C'est une intrigue amoureuse entre la Française Zima et deux prétendants. Il y a un Français et un Espagnol. Et puis tout ça sur le fond d'un choc des cultures, avec quand même une critique assez fine du colonialisme. Alors cette chaconne vient couronner le ballet final, célébrer la paix retrouvée, l'union harmonieuse des peuples, du moins dans l'utopie galante du XVIIIe siècle. Et puis la chaconne, eh bien, c'est une danse à la base, hein, tout se dansait. La première art en France était la danse et non pas la musique. Tout ça est l'héritage, bien sûr, du roi Soleil. Alors, puisque nous sommes dans la musique baroque, je vous propose tout simplement de changer de pays. Allez hop, on file chez les voisins italiens avec Vivaldi. Thank you. Et alors, nous sommes passés par l'Italie brièvement avec la musique de Vivaldi et l'air Nasce Rosa, Lusinghiera. C'était un extrait de Tamerlano d'Antonio Vivaldi, donc avec Fabio Biondi qui dirigeait son orchestre Europa Galante. Nous sommes passés donc par l'Italie et puis nous sommes revenus à la France avec la musique de Jean-Baptiste Lully et cet extrait d'un ballet qui s'appelle Les Muses avec Vincent Dumestre, le poème harmonique, et nous entendions donc cette musique qui s'appelle Les Espagnols. Donc ça nous fait la France, l'Italie, on revient en Espagne, mais avec Jean-Baptiste Lully. Certains disent que voilà, on imagine tout ce que l'Europe est tout à fait récente, cette idée de l'Europe. Ben non, justement, on l'a même dans le titre de l'ensemble qui nous a joué tout à l'heure cet extrait de Bajazet, l'Europa galante, c'est-à-dire l'Europe galante.
Thank you.
On se dit au revoir avec cet Allegro de la symphonie numéro 5 en si bémol majeur de Franz Schubert, Claudio Abbado à la tête du Chamber Orchestra of Europe. Dans quelques instants, vous retrouverez Juliette Granier et la petite compagnie. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente journée à toutes et tous. Il est 9h et c'est le moment des informations.